Alors, je vous propose de nous présenter votre association qui est certainement connue des auditeurs de Radio Courtoisie parce que peut-être sont-ils tombés sur un documentaire exclusif qui est aujourd'hui disponible sur la plateforme en ligne YouTube qui s'appelle le tsunami pornographique et qui concerne les ravages de la pornographie. Alors, je vous propose, Vivien Marc, donc, de présenter votre association. Pourquoi a-t-elle été créée et quelles sont ses actions aujourd'hui?
Oui, alors, merci Antoine pour l'invitation. Stop au porno est une association qui lutte contre la pornographie et l'hypersexualisation de la société. Comme vous l'avez rappelé, nous avons un documentaire qui s'appelle « Le tsunami pornographique » parce qu'il s'agit bien d'un tsunami et même d'un fléau. L'association a été fondée en 2018 par François Biot de Lochner, qui luttait déjà depuis une décennie contre ce fléau, avec une autre association d'ailleurs, et il a réalisé un travail absolument remarquable. Donc nous reprenons le flambeau. Et l'association Stop au porno attache effectivement une importance toute particulière à la protection de l'enfance, mais nous sommes dans une approche plus globale, parce que le porno touche tout le monde, concerne tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, les riches et les pauvres. Finalement, on trouve des consommateurs dans toutes les catégories sociales.
C'est pour ça que vous mettez sur votre site « Enfants en danger, adolescents déboussolés et adultes déstructurés ».
Exactement, notre site qui est stopauporno.fr, donc c'est tout attaché, stopauporno.fr.
Alors, comment vous définissez la pornographie?
Alors, étymologiquement, la pornographie, c'est l'écriture de la prostitution, la peinture de la prostitution. La définition serait peut-être celle, grosso modo, c'est une représentation à caractère sexuel qui est complaisante et qui vise à provoquer l'excitation. Dans cette mesure, on peut dire que la pornographie a toujours existé. Depuis l'Antiquité, on avait des gravures grecques, depuis l'époque médiévale, on avait aussi des textes, on avait des tableaux au XIXe siècle qui étaient pornographiques. Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que la pornographie, notamment sur Internet et via Internet, c'est son principal vecteur, est illimitée, gratuite, instantanée, et accessible à tous, depuis partout. Et donc la pornographie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est pour ça qu'on parle d'un tsunami pornographique. Et chez Stop au porno, nous incluons l'hypersexualisation de la société comme composante du fléau pornographique. Aujourd'hui, vous avez du porno modéré, soft, comme disent les anglo-saxons, partout autour de vous. Dans le métro, vous pouvez tomber sur une publicité qui a un caractère pornographique, aux arrêts de bus, la publicité est le principal vecteur, et cette publicité vise à stimuler, à solliciter, disons, un individu qui passerait par là. Donc nous, on parle même d'une culture pornographique, et donc on a une définition plus large, et notre combat est global sur le sujet.
Alors pourquoi ce combat justement? Quels sont les effets de la pornographie sur les individus et plus généralement sur une société?
Alors, premièrement, je vais vous rappeler quelques chiffres, je vais donner quelques chiffres à nos auditeurs qui ne les connaissent peut-être pas. 50% des mineurs ont vu un film pornographique à l'âge de 11 ans. Je répète, 50% des mineurs ont vu un film pornographique à l'âge de 11 ans. Et la source, c'est Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Donc on s'imagine un enfant sur deux en classe de 6e, un enfant sur deux qui termine l'école primaire a vu un film pornographique. Et quand on dit 11 ans, ça peut être 10 ans, 9 ans, 8 ans. La moyenne varie en fonction des pays.
Donc là, on comprend mieux le titre de votre documentaire, le tsunami pornographique.
Tout à fait. Et il faut savoir que chez les adultes, on est sur des proportions qui sont énormes. Selon une université américaine, 90% des hommes américains ont consommé du porno au cours du dernier mois. On est peut-être sur les mêmes proportions en France, c'est plus compliqué de le savoir. En tout cas, j'ai écouté une chaîne de radio concurrente il n'y a pas longtemps, et une addictologue disait que 5% des hommes français sont addicts. Donc on parle d'une addiction qui est avérée. 5% des hommes français, ça fait 1,5 million d'hommes en France qui seraient addicts. Donc c'est un problème de santé publique. Et d'ailleurs, aux États-Unis, 16 États américains ont déjà reconnu le porno comme un problème de santé publique. Pourquoi on parle de santé? Alors, il y a plusieurs raisons. La science a découvert que le cerveau était très malléable. Donc c'est assez récent. On parle de plasticité cérébrale, c'est-à-dire que votre cerveau a une capacité à se modifier en fonction de son environnement extérieur, par exemple. Donc le porno, comme une drogue, modifie le cerveau. Il y a des études qui ont été réalisées, essentiellement aux États-Unis, ils ont un peu d'avance sur nous, qui constatent que les consommateurs de pornographie ont une altération du cortex frontal. Ce cortex frontal est lié au raisonnement et à la prise de décision. C'est-à-dire que ça affecte votre cerveau et finalement votre vie de tous les jours. Le porno bousille aussi le circuit de récompense. Le circuit de récompense, c'est un mécanisme dans le cerveau qui vous motive pour réaliser une tâche. Et quand vous la réalisez, si c'est un acte difficile, vous avez une décharge de dopamine dans la tête et vous vous sentez bien. Et du coup, vous êtes incité à continuer à faire des efforts. Et le porno, comme une drogue, bousille, comme je le disais, ce circuit de récompense. Le plus grave, c'est que en bousillant ce circuit de récompense, le consommateur de porno en fait, va chercher du contenu de plus en plus violent, une dose de plus en plus forte. C'est pour ça que la plupart des films pornographiques d'aujourd'hui sont 100 fois plus violents, 200 fois plus violents, on ne sait pas les proportions, que les films pornographiques d'il y a 30 ou 40 ans. Et même les personnes qui travaillent dans l'industrie pornographique disent qu'ils doivent sans cesse faire du plus violent, du plus trash, du plus hardcore. Et il y a d'autres conséquences physiques. Donc je vais vous en citer une autre pour ne pas parler que de ces conséquences, mais l'impuissance masculine, puisque le cerveau humain ne fait plus la différence entre le réel et le virtuel. Et donc un homme, avec sa femme ou son épouse, ne ressent plus en fait, de stimulation. Et du coup, il est dans une situation d'impuissance parce qu'il a regardé trop de porno et son cerveau ne fait plus la différence entre la réalité et le virtuel. Et de manière générale, c'est un mal pour la société. On assiste à un véritable changement anthropologique. Et à titre personnel, je rencontre régulièrement des avocats en droit de la famille spécialisés dans le divorce. Et un tiers des causes de divorce, selon ces avocats, est lié à la pornographie. Au fait que le mari, par exemple, c'est plus souvent les hommes qui consomment de la pornographie.
Et alors justement, comment les pouvoirs publics réagissent face à cette problématique ?
Alors, ils réagissent pas beaucoup pour l'instant. Ils réagissent peu, essentiellement pour des motifs libertaires. Ils font pas grand-chose parce qu'ils estiment que ça relève de la liberté individuelle et que si on veut regarder du porno, on regarde du porno. Il faut savoir que le ministère de la Santé en France n'a jamais demandé une étude sur la pornographie, sur ses effets et sur l'addiction à la pornographie. Sachant qu'il y a plein d'études aux États-Unis, il y a des addictologues en France et des spécialistes de santé qui alertent les pouvoirs publics, mais ils ne font rien. Jusqu'à aujourd'hui, le problème du fléau pornographique a été essentiellement abordé par des ministères qui travaillent sur la question des violences faites aux femmes, puisque évidemment, quand on est exposé, surtout quand on est jeune, à des images où on tabasse, on fracasse des femmes, ce sont des images d'une grande violence. In fine, ça influence le comportement de tous les jours vis-à-vis des femmes. Donc jusqu'ici, les pouvoirs publics, et c'est bien, mais ils ne sont attaqués à la pornographie que de ce point de vue. Mais ils n'ont pris aucune véritable mesure. Cependant, il y a des signes d'espoir. Le président Emmanuel Macron, l'année dernière, a prononcé un discours à l'UNESCO dans lequel il dénonçait l'accès au porno des mineurs, chez les mineurs. Il a d'ailleurs proposé qu'un contrôle parental par défaut soit instauré sur tous les services internet, donc les fournisseurs d'accès. C'est-à-dire que ce serait au consommateur de faire la démarche de désactiver. Ce serait une démarche volontaire.
Parce qu'aujourd'hui, on achète un ordinateur, on achète un téléphone, on a accès à tous les sites
Exactement.
Dont vous parlez.
C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en accès libre, illimité, instantané. Il n'y a aucun contrôle qui est fait. C'est pour ça que la loi a d'ailleurs été modifié il n'y a pas longtemps pour faire en sorte que les enfants n'aient pas accès à ces sites pornographiques en imposant un véritable contrôle de l'âge. Donc une véritable vérification de l'âge sur le site. Aujourd'hui, vous cochez juste « j'ai 18 ans » et vous allez sur le site pornographique. Donc là,
il n'y a pas de contrôle.
Cette loi a été adoptée, mais il n'y a pas eu encore de mesures administratives qui ont été prises. Et je le répète, il y a des signes d'espoir. Je pense que les pouvoirs publics peuvent changer sur cette question. Et je vais terminer ce point en vous citant Laurence Rossignol, qui est une sénatrice socialiste et qui était anciennement ministre de la Famille et des Droits des Femmes. Donc je la cite dans
je
le texte.
Je crois pas que ce soit une intervenante régulière de Radio Campus.
Non, 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 effectivement. Mais ce qu'elle dit est intéressant. Un jour, donc c'est Laurence Rossignol, il faudra bien se demander ce que l'on pense de la pornographie qui est accessible, y compris aux adultes. Elle est bien sûr très toxique pour les enfants, mais je considère qu'elle l'est aussi pour les adultes et pour les personnes qui jouent, c'est-à-dire les acteurs. Donc elle a tenu ses propos en juin 2020 à l'occasion d'un débat sur les violences faites aux femmes. Il y a des progrès qui se font et qui sont encore à faire, mais il y a des signes d'espoir.
Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez Vivien Marc, qui est le délégué général de l'association Stop au Porno. N'hésitez pas à lui poser vos questions ou réagir au 01 46 51 00 85. Alors justement, quelles sont les solutions qui sont proposées par votre association Stop au Porno?
Alors, la première solution
contre ce fléau.
Oui, la première solution, elle est simple. C'est d'appliquer la loi. Aujourd'hui, la loi dit que les mineurs ne doivent pas être exposés à de la pornographie. Il est interdit, c'est le code pénal. De mémoire, c'est l'article 224 du code pénal qui interdit le fait de diffuser des messages pornographiques aux enfants. Et la loi a été durcie pour normalement contrôler les plateformes pour qu'elles elles bloquent l'accès aux mineurs. Donc premièrement, il faudrait appliquer la loi. Et je pense que techniquement, ce serait un contrôle parental par défaut qui serait la mesure la plus réaliste. Ce que nous demandons également, c'est qu'une grande étude scientifique soit menée en France, puisque les pouvoirs publics et le plus souvent des journalistes nous disent il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que la pornographie chez les adultes même, qu'elle soit nocive. Il n'y a aucune preuve. Et donc nous, on invite, alors on a assez de preuves avec les études américaines, mais il n'y a pas eu d'études en France. Donc nous, on invite les pouvoirs publics à réaliser une grande étude, sachant qu'il y a beaucoup de spécialistes de santé qui aujourd'hui sonnent le tocsin. Et nous, on invite effectivement les pouvoirs publics de ce point de vue-là. Il y a un autre point, c'est que la pornographie, effectivement, vise est vraiment délétère chez les jeunes. Donc, d'un point de vue moral, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que ce mot est tabou aujourd'hui, alors que la morale, c'est la recherche du bonheur, c'est la différence, c'est ce qui me permet de faire la différence entre le bien et le mal, c'est ce qui me permet d'avoir une vie saine et plus harmonieuse. Ce que nous faisons, c'est que nous intervenons auprès des parents pour les aider dans l'éducation, en partie. Alors, c'est le rôle des parents. Je vous dis tout ça parce que la solution n'est pas que technique. Ce n'est pas qu'une question de bloquer l'accès des sites pornographiques. C'est aussi le rôle des parents parce que un enfant qui ne regarde pas du porno aujourd'hui ne regardera pas a priori du porno quand il sera adulte. Et je vais vous donner un exemple aussi sur notre action de notre action auprès des parents. Il y a un an et demi, un parent a regardé un manga que son enfant lisait, qu'il avait ramené de l'école primaire. Et ce manga comprenait un dialogue pornographique. Le parent est allé voir l'enseignant en lui disant « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du porno, vous ne pouvez pas diffuser ça auprès des enfants. » L'enseignant a dit que ce manga était sur la liste des livres recommandés par l'Éducation nationale. Il me semble qu'une plainte a été déposée par le parent. L'Éducation nationale a reculé, a dit que c'était une erreur, mais c'est un exemple, et du coup c'est une solution que nous proposons aux parents dans l'immédiat, en plus des solutions techniques qu'eux ils peuvent apporter, c'est d'être vigilant et de faire une veille de ce qui se fait partout, et notamment là, c'est l'école publique à l'Éducation nationale.
Alors d'un point de vue des actions que vous mettez en œuvre à Stop au Porno, ou, si je comprends bien, vous avez donc des actions de sensibilisation à travers des conférences, des vidéos, des ouvrages qui sont proposés sur votre site internet, aussi des actions politiques, des conseils aux parents, vous venez d'en parler, une cellule d'écoute, donc un numéro de téléphone qu'on peut contacter si jamais on est soi-même addict au porno ou si on découvre que son enfant en consomme parfois. Et puis, vous menez des actions en justice. Je pense notamment vis-à-vis d'un célèbre site que je ne nommerai pas, on va dire JEM, vis-à-vis de sites pédopornographiques ou encore de publicités affichées dans le métro parisien sur une série diffusée sur la plateforme Netflix. Est-ce que ces actions en justice que vous avez menées ont déjà obtenu des résultats en votre faveur ou alors ce n'est pas encore jugé?
Alors, pour les cas que vous mentionnez, la plupart des actions sont encore en cours. Je sais qu'on a eu récemment un refus. Enfin, le tribunal a estimé que nous n'étions pas recevables. Donc, c'était sur la capacité à agir. Alors, jusqu'ici, nos actions en justice sont encore en cours. C'est pas la priorité des tribunaux. Notre principale action aujourd'hui, elle est auprès du CSA. On a attaqué, il y a 6 mois, il me semble, j'étais pas encore délégué général, mais une pub qui était passée à la télévision. Donc, c'était une pub de la marque Nana, de lingette hygiénique, qui mettait en scène des sexes féminins à une heure de grande écoute sur TF1, France 2 et les grandes chaînes. Donc auprès du CSA, nous avons demandé de faire retirer la pub, ils ont refusé, et nous avons attaqué devant le Conseil d'État, nous avons fait un recours devant le Conseil d'État pour que justice soit faite et qu'on applique la loi. On ne peut pas laisser diffuser ces messages à des heures de grande écoute, sachant qu'il y a des enfants. Donc on demande encore une fois le respect de la loi, et cette action est encore en cours.
Pour la dernière minute d'émission, Vivien Marc, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils aux parents justement, qui sont confrontés à cette problématique-là par le truchement de leurs enfants?
Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est de consulter notre site stopoporno.fr où on dispense tous les conseils. La pornographie, aujourd'hui, elle envahit les écrans des adolescents. Donc, une des solutions, et là, c'est la partie technique, c'est de, par exemple, de mettre une boîte à smartphone à l'entrée de la maison pour que les enfants ne passent pas toute leur soirée, ne soient pas tentés avec leur téléphone à 22-23 heures. C'est aussi instaurer des plages horaires. La priorité, c'est aussi de ne pas donner un smartphone à un enfant qui a 10 ans. Ça n'a pas de sens. Après, c'est aux parents d'apprécier à quel âge ils donnent un smartphone, à quelle heure ils interdisent l'utilisation du téléphone. Mais là-dessus, il faut agir. Et les parents apprécient. Il faut aussi instaurer un contrôle parental. Aujourd'hui, on peut l'activer. Hein. Il existe déjà, mais c'est aux parents de le demander.
Il y a des tutoriels qui existent sur Internet.
Oui, vous trouvez assez facilement, par exemple, filtre sur Internet. Alors, le filtre, c'est un peu différent, mais c'est pour filtrer les recherches. Mais comme je vous le disais, le technique ne pourra jamais se substituer à l'éducatif. Et les parents sont les mieux à même d'apprécier la maturité de leur enfant. Et sur toutes les questions de sexualité d'affectif, d'ailleurs, c'est aux parents d'apprécier encore une fois cette maturité et d'éduquer d'un point de vue affectif et de répondre à leurs questions. Tous les parents qui ont des enfants savent qu'il y a des questions compliquées, mais c'est à eux de répondre à ces questions. Et ce n'est pas le rôle de l'État.
Très bien, merci beaucoup. Vivien Marc, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association Stop au Porno. Je lis très rapidement les messages reçus. Je suis confus, je ne pourrai pas, du coup, les interlocuteurs ne pourront pas y répondre. Et j'en lis juste deux. Parmi les associations reçues, quelles sont celles dont les documents, dont les dons sont déductibles fiscalement? Est-ce que Stop au Porno, c'est le cas?
Oui, c'est le cas.
Concernant le vote des députés, lorsqu'il faudrait imposer un quorum de présence, donc de 50%. Et dernière remarque d'un auditeur, vu l'incapacité totale de la droite, il ne reste plus qu'à se ranger sous la bannière Sarkozy-Zemmour. Voilà, j'ai lu un certain nombre de messages. Je remercie Jean-Edouard à la technique qui a parfaitement réalisé cette émission. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de semaine à l'écoute de Radio Courtoisie. Au revoir et à bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal des idées politiques dirigé aujourd'hui par Antoine Delatour, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 23 octobre 2020 de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.